Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne 3 conseils de trucs cool en 20 minutes, plus ou moins. Hein. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, comme pour l'épisode précédent et comme pour les 2 épisodes à venir, j'ai une équipe de choc composée de rires et de cheveux, vous le savez désormais, il s'agit de Pascal et Hardis. Comment allez-vous messieurs?
Bonjour Patrick, ça va très bien.
J'ai cru que tu allais dire de rires et de chansons, j'aurais trouvé le jeu de mots assez rigolo. Mais...
Écoute, le rire, on en a la preuve, et la chanson arrive, puisque ma première recommandation est une recommandation musicale. Et écoutez, bah, je vous propose qu'on se lance immédiatement, hein, à moins qu'il y ait d'autres choses dont on doit parler.
Bon, écoute, ça va, moi, je suis prêt à y aller.
C'est bon. Très bien. Eh ben, écoutez, à ce moment, on se lance tout de suite avec la première recommandation, qui est une recommandation qui vient de ma jeunesse un petit peu, c'est-à-dire pour continuer sur le thème de l'épisode précédent, qui vient d'un moment que Hardis ne connaissait pas vraiment, c'est-à-dire les années 80. Et à vrai dire, pour être parfaitement honnête, le groupe dont je vais vous parler a connu son succès avant que moi je ne m'intéresse vraiment à la musique un petit peu sérieuse, puisque je vous parle de Madness, un groupe anglais qui a eu beaucoup de succès dans la fin des années 70, début des années 80. Et moi, je les ai découverts quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, c'est-à-dire fin des années 80, début 90. Et je vais recommander aujourd'hui l'un de leurs albums Best Of, qui est qui s'appelle Divine Madness. Et généralement, je comprends les gens qui disent les best-of c'est pas génial parce que ça perd l'identité d'un album et l'ambiance d'un album, machin, tout ça. Mais bon, je vais pas aller vous recommander tous les morceaux de Madness non plus. Je pense que dans le cas de ce groupe en particulier, on a un panorama de ce qu'ils ont fait qui est quand même bien représenté dans cet album Divine Madness. Et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, Madness, c'est un petit peu l'un des 2 piliers du ska en Angleterre. Et le ska, c'est... Ah, comment décrire le ska ? C'est du reggae... c'est une sorte de reggae plus modernisé, on va dire, ou pas moderne, mais ouais, un reggae un petit peu plus
revisité,
comment dire, pas électronique non plus, mais un reggae pop, quelque chose comme ça. Alors ouais, tu valides.
Non, je suis pas un spécialiste du ska, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai la sensation que c'est un reggae qui a été aussi digéré par la musique pop, quoi. C'est-à-dire.
C'est ça, ouais.
C'est comme Eminem pour le rap, quoi.
Un petit peu. Et effectivement, Eminem, ça reste du rap, mais du rap un petit peu à sa sauce. On peut même dire, je pense, sans être taxé de racisme, c'est un petit peu du reggae de blanc, quoi, le ska.
Ouh là là.
Je pense qu'on peut le dire.
Non, mais si. Je sais pas si
je ne rejoins pas les propos de Patrick Béja.
C'est honteux, monsieur.
Non, mais de la même manière que tout à coup, Eminem s'est mis à parler de ses problèmes de les questions d'homosexualité, les questions de sa mère qui était complètement tarée, ce genre de truc, alors que traditionnellement le rap c'était plus des préoccupations urbaines de on a le gangster rap qui était hyper populaire et qui était donc voilà, ça a un petit peu changé la teneur du truc. Le ska, il y a pas du tout la connotation sociale ou même raciale, mais c'est clairement, enfin de à mon sens, Madness c'est que des blancs quoi, c'est une bande de petits gringalets anglais, et même UB40, UB40,
c'est ce que j'allais dire, il y avait UB40 aussi dans le même genre, pareil, petit donc, blanc de reggae.
C'est ça, voilà. Donc bon, ensuite ça a rien à voir vraiment avec la couleur de peau, mais c'est juste que c'est eux qui l'ont digéré et qui en ont sorti quelque chose de similaire mais d'un peu différent. Je vais passer un petit extrait pour faire entendre un petit peu aux auditeurs. Alors vous sur Skype, vous allez pas l'entendre, mais je vais passer le truc hyper connu parce que je suis sûr que certains d'entre vous l'auront déjà entendu, c'est One Step Beyond. Il y a énormément de disons que c'est reggae dans les rythmes, mais il y a énormément de cuivre Et bon, je vais le passer, vous allez comprendre tout de suite. Ah, attendez, peut-être un petit peu plus fort. Hop.
Oh là, ça me rappelle des souvenirs.
Ça va loin.
Bon, ils l'entendent pas.
Mais... Non, mais moi je connais la chanson par contre.
Donc voilà, ça c'est One Step Beyond, très très connu évidemment. Mais il n'y a pas que... alors attendez, je vais baisser un petit peu le son pour je vais le mettre en fond. Il n'y a pas que One Step Beyond, il y a aussi des trucs genre Our House qui est hyper connu où il parle de sa famille et de son frère et de sa mère et de tout ça. Mettons un petit peu de son. Alors là, en écoutant Our House et même One Step Beyond, je me rends compte que c'est très très peu reggae finalement. On parlait beaucoup de reggae.
C'est marrant, j'oublie souvent que c'est un morceau de Our House.
C'est... Ouais.
Ils ont été quand même très vraiment... large au niveau de musical en fait.
C'est vrai, ouais. Bon, ils ont eu une carrière quand même, ce qui s'est étalé sur une dizaine d'années. Je vais essayer de trouver un truc qui est un tout petit peu plus reggae quand même, parce que là, on se ridiculise un peu. Mais c'est vraiment, enfin, l'influence reggae est là, quoi. Mais alors, attendez, est-ce que on va trouver
le truc, c'est du death metal, ça n'a aucun rapport.
Non, mais il insiste. Ne fâche pas Patrick, si c'est reggae, c'est reggae.
C'est dans le rythme, tu vois, tu sens le...
Bon. Dans le mood aussi, il y a ce côté musique spirit. Enfin, le reggae, c'est une religion, c'est une musique, c'est une façon de voir le monde, c'est plein de choses, oui. Mais c'est sûr que là, sur ces deux morceaux-là, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais quand on connaît la culture reggae, on voit la ressemblance. En tout cas, on voit
l'origine,
voilà, la filiation.
On a House of Fun, là, qui est en train de passer. Il y avait... Ah, voilà, Nightboat to Cairo. Allez, on va faire Nightboat to Cairo et on va finir avec ça. Bon, mais c'est pas dire que j'ai pas dit que c'est pas du reggae.
C'est du ska, c'est particulier.
C'est du ska, voilà.
Retrouvez les critiques musicales de Patrick Béja. Demain, Henri Dess.
Le roi du black metal.
C'est ça.
Bon, voilà. On va s'arrêter là pour les extraits musicaux. Vous l'aurez compris, c'est pas du reggae, mais il y a quand même quelque chose quelque part d'un petit peu reggaéen.
L'héritage reggae.
D'ailleurs, pardon ?
C'est l'héritage reggae, c'est.
Voilà, c'est
les
ça.
Enfants du reggae.
Exactement, et c'est hyper rythmé. C'est vraiment le genre de truc qui te donne envie. Enfin, c'est hyper difficile. Je sais pas si c'est parce que moi ça me rappelle des choses, mais c'est hyper difficile d'écouter du Madness, d'écouter du ska et de pas se lever et limite même pas de marche, de danser, mais de marcher genre en rythme quoi. C'est ça te fait vibrer le corps entier et c'est hyper particulier et ça donne. Moi je trouve que ça donne la pêche et c'est un truc vraiment à découvrir, je pense, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler du ska. C'est le genre de truc qui a pas traversé les époques. Contrairement, il y a beaucoup de groupes et de styles de musique qui ont traversé les époques et qu'on écoute encore aujourd'hui. Le ska, c'est un petit peu resté dans les années 80. Et c'est un style musical qui, à mon sens, vaut le coup d'être découvert si on aime un petit peu la musique. Et c'est pas un truc... C'est un truc que tout le monde peut apprécier, quoi. C'est un truc que je recommanderais. L'album, c'est un album que je recommanderais à tout le monde. C'est pas de la musique difficile à apprécier. C'est sympa, ça a la pêche, c'est pas déprimant, c'est pas donc voilà, je recommande à tout le monde. L'album s'appelle Divine Madness et le groupe s'appelle Madness et c'est la recommandation d'aujourd'hui pour moi. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut avancer, à moins que vous n'ayez des remarques ou des questions.
Écoute, tout va pas bien. Sur ça, tu vois.
Très bien. Et ben donc, Pascal, tu peux nous parler de ta BD.
Ah oui, alors là, moi, c'est pas léger du tout. Ça s'appelle Mars Horizon. C'est sorti aux éditions Delcourt dans la collection Octopus, une collection qui a été créée par le dessinateur Boulet. Et c'est un scénario de Florence Porcel, qui est une amie, je tiens à le préciser avant, et le dessinateur Erwan Surcouf. Alors, quand Patrick m'a dit on va faire Positron et tout, et que je me suis rendu compte qu'avec une vie de jeune parent, bah, j'avais eu très peu d'activités culturelles dans l'année, et qu'une amie avait sorti une BD que je n'avais toujours pas eu le temps de lire, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler. Et j'ai pris une claque, vous voyez, parce que j'avais eu la chance, vu que c'est une amie, de connaître un peu la naissance du projet. Et j'ai enfin pu lire le résultat final. Et Mars Horizon, ça raconte l'histoire d'un équipage qui va être les premiers en 2080 à aller vivre sur Mars. Ça pourrait paraître être de la SF parce que je pense qu'il y a obligatoirement une forme d'anticipation pour la date, mais au fond tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez apprendre en lisant cette bande dessinée a un vrai background scientifique. C'est très dense. Alors les dessins sont particuliers, faut aimer ou pas. Erwan Surcouf, je sais pas si vous l'avez déjà vu, il a bossé avec Axolot notamment, il a bossé un peu avec Trondheim, il a bossé c'est toute cette bande là, vous voyez, c'est un peu les jeunes dessinateurs actuels de chez Delcourt, il y a Boulet, il y a donc voilà, et ça raconte donc l'histoire d'un équipage qui s'installe sur Mars en même temps qu'un autre équipage est en train de visiter une lune de Jupiter. Et c'est dingue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de bande dessinée moderne. C'est-à-dire, si vous voulez, maintenant la bande dessinée a vraiment assume parfaitement le fait qu'elle peut avoir un contenu de qualité éditoriale. C'est-à-dire, ce n'est plus juste de la bande dessinée pour enfants ou juste pour divertir. C'est aussi un support pour apprendre et pour découvrir. Et dans Mars Horizon, bah écoutez, si vous avez la curiosité de savoir ce que pourrait donner la vie sur Mars, en tout cas les premiers instants, vous allez vous rendre compte que atterrir et s'installer, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'arriver à briser tous les codes terriens que vous avez depuis là jusqu'ici, c'est-à-dire le rythme de vie, les habitudes, le fait d'être sur une planète qui ne veut pas de vous. C'est très intéressant. Je sais pas si
c'est plus éducatif en fait. Alors
c'est là où je trouve que l'écriture est très particulière. Scientifique. Voilà. Si tu veux, je pense que c'est une. Je dirais, j'ai pas lu. Alors chez Octopus, il y a deux autres bandes dessinées. Il y en a une qui est sortie début novembre sur le sexe, et il y en a une qui est sortie un peu avant sur le corps humain. Je pense que le but, c'est pas d'être éducatif. C'est juste de se dire, voilà, vous aimez la science. On va écrire des histoires pour des gens qui aiment la science. C'est pour ça que je t'ai dit, je pense que c'est pour les fans, parce que si t'as pas envie de traiter le sujet, c'est pas la BD qui va te faire rêver avec des extraterrestres qui existent pas, ou tu vois, c'est vraiment la plus grosse action, c'est d'aller dans la cabine à côté, parce que le fait d'y aller, tu risques de crever sur les 10 mètres qui te font traverser la... Enfin, c'est très particulier. C'est entre le reportage, la science-fiction...
Ça me fait penser à Seul sur Mars, le film tiré du livre, justement.
Oui, tout à fait. Martian. Oui, mais alors la différence, c'est que Seul sur Mars, c'est un vrai thriller. Il se passe quelque chose et on est happé jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se terminer. Et je trouve que ce qui est fort dans Seul sur Mars, c'est d'avoir réussi à disséminer dans le livre des éléments scientifiques. Alors que là, c'est vraiment... c'est comme si tu voyais un reportage sur les premiers jours sur Mars et tous les éléments qui vont devoir se mettre en place. Je sais pas si je peux le conseiller à tout le monde. Faut avoir vraiment envie de se passionner pour ça. Mais par contre, si vous avez la curiosité de le lire, moi j'ai été très impressionné d'abord de voir qu'il y a finalement beaucoup de technologies qui sont déjà là. Elon Musk fait partie du bouquin d'une façon ou d'une autre parce qu'on considère qu'en 2080, il est un peu à l'origine de beaucoup de technologies. Alors c'est peut-être l'élément qui sera daté plus tard. C'est vrai que pour l'instant, c'est le visionnaire actuel, mais peut-être ça sera pas lui. Mais c'est très intéressant de voir qu'au final, on a déjà quasiment toutes les technos pour développer une vie sur Mars. Ça, c'est assez dingue. Là, c'est plus la pérennité du voyage et surtout le fait de trouver des gens qui seront aptes à vouloir y rester aussi. Parce que moi, je vous parle de Florence, qui est une amie. Florence, c'est la seule personne que je connaisse vraiment dans la vraie vie qui est prête à aller vivre là-bas et ne jamais revenir, mais pour de vrai.
Mais en plus, elle a même participé au concours
Arswan, qui est censé être une émission de télé-réalité produite par Endemol sur Mars pour 2024. Bon, je pense que ça sera pas tout de suite, mais quand on voit les dernières conférences d'Elon Musk sur SpaceX, tout ça, on se dit que c'est peut-être un futur proche, en fait. C'est assez étonnant. Je pense à ceux qui ont lu Tintin, on a marché sur la Lune 10 ans avant le vol d'Apollo, quoi. Ça devait être à la fois tellement impossible, improbable et en même temps si proche. C'est surprenant. Voilà. Ça fait cette sensation-là. On se dit, mais on a déjà les réponses à beaucoup de choses, en fait. Ce qui nous manque, c'est peu, quoi. C'est de l'argent, de la motivation et une entente internationale, quoi. Voilà. Donc, je vous conseille cette collection Octopus. Je trouve que c'est un bon moyen de s'informer et de se divertir et en même temps de pas avoir la sensation de suivre un cours, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. Ça se veut pas éducatif. Il y a vraiment une histoire et tout s'intègre dedans.
D'accord. Super, donc ça s'appelle Mars Horizon et c'est une BD plutôt pour les fans. Merci Pascal. Hardisk, à ton tour.
Oui, eh bien écoutez, moi je vais vous parler... Attends, excuse-moi. Je vais vous parler de Siberia. Siberia, qui est une série NBC qui a été diffusée il y a quelques années. Alors, il faut savoir que les chaînes de télé américaines comme françaises, pendant l'été, elles ont souvent un trou dans la programmation. Alors, où elles vont reprogrammer des épisodes de séries dont elles ont déjà les droits, où elles vont tester justement parfois du contenu original à petit budget pour tester si des nouveaux univers peuvent prendre ou pas pendant l'été justement. Et ils ont testé ce truc-là, je crois que c'était en 2013, si je dis pas n'importe quoi, qui s'appelait Siberia et qui était extrêmement bien pensé. Moi, j'ai vraiment accroché. Alors par contre... Attention, ça finit sur un énorme cliffhanger qui ne sera jamais résolu parce qu'il n'y a pas de saison 2, il n'y aura jamais de saison 2. Donc c'est hyper décevant à la fin parce que si vous rentrez dedans comme moi je suis rentré dedans, vous allez être vraiment déçu de voir que on termine sur un début d'explication dont on n'aura jamais le bout. Mais en gros, le concept, c'est un peu comme Koh-Lanta, c'est-à-dire que vous avez 12 personnes, c'est filmé comme une télé-réalité. Vous avez 12 personnes, donc pas sur
mais
une île.
Mais c'est pas une télé-réalité, juste.
Alors justement,
Dedans. Ah, mais je d'accord.
En fait, ça a été marketé aux États-Unis comme une télé-réalité. Et quand les premiers épisodes sont sortis, il y avait de la science-fiction dedans et les gens se disaient, attendez, mais c'est vrai ou pas, du coup? Il y a eu tout un espèce de truc. C'était super bien foutu quand tu le regardais en direct, entre guillemets, à l'époque. Parce que du coup, t'avais tout le monde qui était là, genre, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Genre, on nous dit que c'est de la télé-réalité, mais en même temps, là, le ciel devient tout vert et c'est quoi? Enfin, c'est très bizarre. Et donc voilà, donc c'est 12 contestants qui sont donc dans la forêt en Sibérie. et leur but c'est de survivre un hiver, donc c'est dans un concept d'émission de télé-réalité un peu standard. Et puis il se passe des choses qui font que c'est pas tout à fait normal, et au bout de quelques épisodes, ils arrivent plus du tout à joindre la production, ils sont laissés pour compte avec leur caméraman, impossible de joindre les producteurs, impossible de joindre l'hélicoptère de secours, et il se passe des choses de plus en plus bizarres, voilà. Et c'est très très prenant, et quand on connaît l'histoire de cette série, la façon dont elle était dont on a fait la promotion là-bas en disant que c'était une télé-réalité, mais en fait c'en était pas une, c'était hyper malin, et on rentre dedans et tout seul, hyper facilement. Il y a qu'une seule saison, ça se dévore assez rapidement, et sur son mobile,
c'est quoi,
dans le métro.
C'est 10-12 épisodes, c'est ça ?
Quelque chose comme ça, ouais, c'est assez facile à regarder, et c'est super super sympa.
Et ils n'ont pas oublié les comédiens en Sibérie, rassure-moi, ça c'est bien fini pour eux, non ?
L'histoire ne le sait pas, parce qu'ils avaient des faux CDD, justement, voilà, ça allait jusque-là.
Ah non, c'est vrai ? Ah,
non, non,
magique.
Non. Mais.
J'aurais trouvé ça incroyable, quoi. La méta.
T'imagines, on a tué 12 caméramans, c'est vraiment génial, j'adore m'amuser.
Mais du coup, est-ce que le fait de savoir qu'il y a toute cette mascarade autour de la télé-réalité, si on le sait quand on commence à regarder, ça gâche pas un peu le plaisir ?
Ben écoute, non, parce que moi quand je l'ai regardé, j'ai découvert, donc pas en direct mais presque, genre je crois que en direct ils diffusaient le quatrième épisode quand moi je découvrais le premier, donc j'étais plus ou moins au courant parce que sur Reddit il y avait déjà des gens qui essayaient, parce qu'évidemment il y avait des messages codés partout, il y avait des gens qui essayaient de décrypter et tout, enfin c'était un délire, donc j'étais à peu près au courant, mais il faut voir que l'aspect science-fiction qui casse le mur du réel arrive très vite dans la série. Donc je crois qu'il y a vraiment que le premier épisode où il se passe rien de paranormal. Donc tu te rends compte de la supercherie assez rapidement et tu te fais ah les enfoirés, tu vois, t'es là genre en train de murmurer dans ton menton, genre ils sont vraiment allés jusque là. Non, je pense que ça casse pas grand chose.
D'accord. Donc c'est pas.
Ah, pardon, excuse-moi Patrick.
Non, je disais juste, c'est pas le ressort principal de la série. Ensuite, il y a
Vraiment un petit bonus, mais il y a vraiment quelque chose derrière. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'on commence à comprendre à la fin et dont on n'aura jamais la suite. Et j'ai envie de tuer NBC pour ça. Mais voilà.
D'accord. Ouais, Pascal, t'avais une question.
Oui, je voulais savoir, est-ce que tu sais si par hasard les scénaristes ont d'une manière ou d'une autre essayé de continuer l'histoire, ou en tout cas de permettre aux fans de connaître la suite, parce que ça se fait beaucoup maintenant, ça se termine en BD, en comics ou autrement. On sent que c'est plus qu'un produit de business. On sent que les scénaristes ont envie de donner la suite souvent.
Écoute, les scénaristes, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que moi j'étais très actif. Donc il y avait un subreddit /r/Siberia qui était très actif pendant un moment qu'il n'est plus maintenant. Il y a donc tout le cast, les acteurs sur Twitter qui ont lancé un truc, un hashtag Siberia saison 2 à un moment. Ils ont vraiment poussé pour que ça se fasse et on n'a jamais eu de nouvelles. Ils ont fait quelques lives sur Google Hangout avec des gens du subreddit pour expliquer que ils sont en train de négocier avec NBC pour faire une saison 2, etc. Et puis au bout d'un jour à l'autre, on n'a plus jamais eu de nouvelles et les acteurs utilisent plus du tout Twitter maintenant et on ne sait plus du tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont retournés en Sibérie ? Je ne sais pas, mais, mais voilà.
C'était il y a combien de temps qu'ils ont arrêté d'utiliser Twitter ?
Oh, il y a un an et demi peut-être.
Oh, ils sont peut-être en phase de production alors.
Écoute, arrête.
C'est pas 100% impossible, mais...
Ah ouais, ça se trouve, c'est Netflix qui a remis des billes, hein.
Tu penses que, non, sans déconner, j'ai jamais pensé à ça, tu penses?
Ah bah, non, mais comme Netflix, ils ont l'air un peu spécialisés pour relancer des séries un peu iconiques comme ça.
Attends, mais ils mettraient quand même un tweet genre, non?
Bah, Netflix, tu reçois un message le matin, vous avez la saison ce soir à la télé, t'es là. annule tout, ce soir on reste à la maison.
Oh putain.
Non mais il y a deux solutions. S'ils ont vraiment arrêté de faire des trucs publics, soit effectivement il y a quelque chose qui est en train de se travailler, soit c'est NBC qui leur a dit bon maintenant ça suffit ces conneries parce que vous nous emmerdez, on va rien faire et vous fermez vos gueules parce que sinon vous travaillerez plus jamais et voilà, donc
deux
solutions possibles. Mais en même temps, je vois un petit peu sur Metacritic, il a 63 sur 100, Siberia. Donc, je suis pas sûr que ça soit le genre de truc. C'est le genre de truc que les fans adorent, mais qui avait pas suffisamment de.
Tu penses que c'est un peu limite? Je me rends pas compte de Metacritic. Moi, je regarde pas beaucoup.
Bah, je crois que 63, ça me paraît faible. Tu sais, aux États-Unis, si t'es pas dans les 80, c'est que t'as pas bien réussi ton truc. Donc,
d'accord.
T'as raté ta vie, c'est connu. Hein.
C'est comme si t'as pas une Rolex à 40 ans.
T'as pas eu 80 sur Metacritic, ouais.
En même temps, Stranger Things à 80 sur Metacritic.
Ah, donc, alors là, je suis surpris parce que vu la hype du...
Ah ouais, non, mais... Et là, au moment où vous écoutez cet épisode Stranger Things...
Et on a vu la saison 2.
La saison 2, on l'a déjà vu et je suis sûr que moi, je suis complètement tombé amoureux de cette série encore une fois. Mais bon, bref, c'est complètement autre chose. Siberia, donc tu le recommandes pour les gens qui aiment ce genre de truc quand même, j'imagine.
Ouais, mais écoute, c'est moi j'étais pas du tout là-dedans et je pense que c'est plutôt grand public parce que franchement, c'était pas mon délire et je suis rentré dedans assez facilement. Donc ça a pas atteint le succès que ça devait parce que je pense que donc, c'était diffusé en été à des horaires un peu bâtards. C'était pas non plus fait pour fonctionner, mais non, moi qui suis pas forcément public de ça, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Donc,
d'accord. Bon, bah, très bien. Donc, voilà, c'est la dernière recommandation du jour. On vous rappelle de quoi on vous a parlé aujourd'hui. Divine Madness, un album de ska, qui est, vous l'avez compris, quand même un petit peu du reggae, mais pas exactement. Mars Horizon, une BD qui vous expliquera comment se passera le premier vol sur Mars, vers Mars. Et Siberia, qui est une série télé un petit peu bizarroïde, mais qui devrait vous plaire tout de même. C'est la fin de cet épisode et comme toujours, on demande aux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver. Commençons aujourd'hui par, disons, Hardisk.
Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur twitter.com/hardisk, c'est H-A-R-D-I-S-K, et sur youtube.com/hardisk où je fais 2 vidéos par semaine.
Et c'est là-bas que vous pourrez voir ou revoir l'incroyable chevelure du Hardisk du matin.
C'est ça.
Pour Pascal.
Eh bien, moi, j'ai toujours un prographe, au moins une fois par mois sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur tous les réseaux sociaux, c'est Pascal Mabi, tout attaché. Sinon, tapez dans Google pour les anciens, vous me trouverez toujours.
Très bien, très bien. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr où vous trouverez également d'autres productions podcastiques de votre serviteur et notamment le rendez-vous jeu que j'évoquais à l'épisode précédent, mais aussi le rendez-vous tech qui est un résumé de l'actualité tech. Toutes les 2 semaines, on se retrouve et on vous fait un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans l'actu tech. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher toutes les news sur les centaines de blogs et pour être au courant. Vous passez un bon moment, 1h30 et hop, c'est plié. Vous savez tout ce qui s'est passé avec en plus une bonne dose d'analyse et d'humour. Vous pouvez trouver ça sur frenchspin.fr ou alors simplement en cherchant le rendez-vous tech sur votre app de podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.